Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Deux monstres sacrés de la télévision belge se racontent dans les pages des Racines élémentaires, Josie Dubier et Jean-Claude Defossé. On vous dira pourquoi il faut lire cet entretien. Mais d'abord, focus sur les établissements scientifiques fédéraux, des institutions remarquables qui souffrent d'un cruel manque de moyens. Nous sommes le vendredi 19 mai, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Savez-vous quel est le point commun entre les musées des Beaux-Arts, l'Observatoire Royal et les Archives Générales de l'État ? Eh bien, il s'agit à chaque fois d'un ESF, un établissement scientifique fédéral, des institutions culturelles et scientifiques qui ne dépendent pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais bien de l'État fédéral, des institutions qui doivent toutes faire face à des problèmes de financement et de personnel. Alain Lallemand, journaliste au service culture, s'est plongé dans le dossier pour comprendre quels sont les maux qui gangrènent les ESF. Il nous explique. Bonjour Alain.
Bonjour Pierre, bonjour.
On va donc faire un tour d'horizon, une prise de température au sein des établissements scientifiques fédéraux. D'abord, on va commencer par la base. Que désigne-t-on par ces trois lettres ESF ?
On pense généralement en Belgique, qui est quand même un État fédéral, que la culture est attribuée aux communautés. Et on oublie un peu facilement qu'il reste un petit reliquat. Au niveau fédéral, on s'est dit qu'il y avait une série de pépites, une série de joyaux nationaux qu'il était inutile ou impossible de partager. C'est ce qu'on appelle les établissements scientifiques fédéraux. Ils sont à la fois scientifiques et ils sont culturels. Ça vous étonne peut-être, mais les archives générales, c'est évidemment scientifique, c'est aussi culturel. Ça parle de notre histoire. Eh bien, c'est la même chose pour les musées royaux des Beaux-Arts. Si vous ne le savez pas, ils font partie non pas de l'administration bruxelloise ou l'administration communautaire, ils dépendent directement d'un SPF qui est la politique scientifique. Et la politique scientifique, comme ça, elle gère 10 établissements qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun. Ce sont les archives générales, mais c'est aussi l'Institut royal météorologique à Uccle. Ce sont les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, j'y reviens. C'est l'Observatoire, c'est le musée Art et Histoire au Cinquantenaire, c'est Tervuren, le musée de l'Afrique centrale, bien sûr. Bref, une dizaine d'établissements comme ça, qui ont donc, je le répète, une dimension à la fois culturelle et scientifique, ce qui fait qu'on les a regroupés ensemble. Le problème, vous en doutez bien, c'est qu'à partir du moment où on fait vivre ces joyaux au niveau fédéral, il y a des gens auxquels ça déplaît, notamment les séparatistes, les nationalistes flamands, qui vont tout faire pour casser la maison, non pas casser les institutions, mais casser la manière dont ils étaient regroupés. Donc, première des choses qu'on va faire ces 10 dernières années, on va commencer évidemment par raboter les budgets, mais surtout, on va essayer de paupériser ce qui est la parabole, le parapluie qui les regroupe tous et qui s'appelle Belspo, l'administration qui va voir ses effectifs coupés, mais véritablement de manière dramatique. Entre 2017 et 2018, cette administration de 300 personnes va perdre un tiers de ses effectifs. Merci la NVA, c'est une coupure qui va être réalisée, une dégradation, réalisée d'abord par Elke Slurs, puis par Madame Zualdemir.
Maintenant, depuis la mise en place du gouvernement Vivaldi, ça va quand même un petit peu mieux pour de la politique scientifique fédérale.
Ça va beaucoup mieux. Donc, après un intermède des libéraux quand même, on a maintenant un secrétaire d'État, Thomas Dermin, qui a décidé d'une part qu'on allait arrêter de couper, qui a décidé qu'on allait remettre un patron dans la maison. Donc on a désigné un nouveau directeur, il s'appelle Arnaud Vajda, il est inconnu du grand public, mais il est très actif pour mobiliser ces ESF, ces établissements scientifiques fédéraux. Et l'an dernier, ils ont fait quelque chose qui n'était plus arrivé depuis un certain temps. D'abord, ils ont nommé de manière ferme et non plus ad intérim la grande majorité des directeurs. Ça a véritablement mobilisé les troupes. Et puis, autre chose, il leur a donné un cap, un plan stratégique pour les prochaines années ils savent quel est leur ordre de marche, ils savent vers où ils vont.
À vous entendre, là, on pourrait se dire que maintenant, tout va bien dans les ESF.
Ben non, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. D'abord, les 10 dernières années de disette font que le personnel est toujours en effectif réduit. Les budgets sont toujours extrêmement réduits. Et puis, il y a une tradition un peu de peur. On a eu peur pour son emploi il y a 5 ans, mais aujourd'hui, on reste toujours un peu stressé. Il y a pire que ça. À partir du moment où on a, sous l'impulsion de la NVA, réduit, je l'ai dit, l'administration qui chapeautait le tout, eh bien, il y a des services qui aujourd'hui ne fonctionnent plus bien. Par exemple, les services d'appui. Il y a trop peu de personnes. Lorsqu'il faut faire un marché public, lorsqu'il faut modifier l'informatique, tout ça devient très compliqué si chaque établissement, l'un à côté de l'autre, doit procéder à ses propres réformes. C'est plus facile de le faire ensemble.
Voilà pour un constat pas très réjouissant. Le personnel, il essaye quand même de, entre guillemets, relancer la machine à court terme.
Ils ont décidé de recommencer, de repartir sur une nouvelle base où on va demander à des établissements qui sont déjà en difficulté, qui ont de petits effectifs, qui ont de petits budgets, de dire, bah, écoutez, dans l'immédiat, ça va aller mieux demain, mais dans l'immédiat, donnez-nous à nouveau un peu de vos budgets pour recréer une sorte de coupole. Et donc, à court terme, c'est un peu compliqué.
Le problème général, il part donc essentiellement d'un manque de budget, comme souvent. On l'a dit, il y a différentes institutions. S'il y a partout ce problème commun de budget en baisse, les manifestations des problèmes, elles sont les mêmes, le malaise est le même dans les différentes institutions fédérales.
Mais non, vous avez raison de le souligner. Vous avez vu qu'il y a eu le départ de certaines personnalités. On a beaucoup, beaucoup parlé du départ du directeur des Musées Royaux des Beaux-Arts, Michel Draguet, parce qu'il aurait été cassant, parce qu'il aurait été particulièrement exigeant. Bon ben, il y a sans doute des aspects humains, mais il y a aussi des aspects budgétaires. Dans d'autres musées qui ont les mêmes problèmes budgétaires, les choses sont un peu moins centrées sur des individus, sont un peu plus généralistes, par exemple au musée Art et Histoire au Cinquantenaire. Ils ont les mêmes problèmes d'effectifs, ils ont les mêmes problèmes de coupes budgétaires, mais ils ne vont pas le reprocher au directeur actuel, donc ils vont essayer de trouver une manière de mobiliser. Mobiliser pourquoi ? Quel est le problème commun que l'on voit surgir dans ces différents établissements ? C'est que quand vous n'avez pas de budget, quand vous n'avez plus de dotation suffisante pour avoir des engagements, qu'est-ce que vous faites ? Ben vous vous dites, les fonctions que je dois absolument sauver, c'est l'excellence, c'est l'expertise scientifique. Donc si vous avez un peu d'argent, hop, vous les mettez dans les contrats ou dans les nominations de scientifiques ou de gens de très très haute qualité, de très très grande qualification. Et donc qui est-ce qui essuie, qui est-ce qui écope les problèmes, ce sont les gens qu'on appelle de niveau D, donc les fonctions les moins qualifiées. Et ces fonctions moins qualifiées, eh bien vous les connaissez toutes. Ce sont les gens qui vous accueillent au guichet d'entrée, ce sont les gens qui surveillent les salles, ce sont aussi les gens qui surveillent la sécurité du bâtiment. Bref, toutes ces petites mains sans lesquelles les ESF ne peuvent pas faire leur travail. Donc ces gens que vous croisez, ils sont vraiment sur la ligne de brèche, sur la ligne de front. C'est eux qui doivent être un peu revitalisés, mieux payés. Or, que se passe-t-il ? Bah, l'État fédéral, il est dans ses démarches administratives de nomination, il a des difficultés à payer de bons salaires, et donc généralement, ben, les sociétés de gardiennage dans le privé payent beaucoup mieux. Donc pour un directeur de musée, essayer d'embaucher des gardiens pour la sécurité du musée, ça va être très compliqué, puisque dans ses réserves budgétaires, il a peu d'argent pour essayer de financer des emplois qui sont beaucoup mieux financés dans le privé. Donc qu'est-ce qu'ils font les directeurs du musée ? Eh bien simplement, ils font appel aux sociétés extérieures, il y a beaucoup d'externalisation, et donc le personnel qui voit qu'on n'a plus assez de personnel, qu'on va chercher le personnel à l'extérieur, il se trouve extrêmement démoralisé, et il a un peu envie de se manifester pour l'instant. Parce qu'on lui dit, tout va bien dans les ESF, vous voyez, il y a un plan stratégique, fini l'époque NVA, et puis on va faire des choses magnifiques avec vous, on va créer, par exemple pour le cinquantenaire, un grand projet pour le bicentenaire de la Belgique qui s'appellera Cinquantenaire 2030, génial. Eh ben, les employés disent, ne nous oubliez pas, nous, on n'a pas été augmenté, nous on est toujours en sous-effectif, on n'en demande pas beaucoup, mais on demande simplement qu'on considère notre situation, qui est devenue calamiteuse depuis 10 ans. On vit dans des immeubles qui sont devenus de taudis. Par exemple, au musée de Tervuren, vous avez vu un superbe Africa Museum, musée de l'Afrique centrale. Savez-vous que les bâtiments, les locaux qui sont destinés aux travailleurs, n'ont pas été rénovés et qu'ils continuent à vivre dans la même misère, je ne dirais pas depuis le Congo belge, mais presque.
Juste pour terminer, c'est quoi le risque au départ ? Vous avez parlé des ESF comme étant les joyaux du patrimoine culturel et scientifique belge. Le risque, c'est de perdre justement ces joyaux de la couronne qui se détériorent. En fait, ce qu'on devrait le plus mettre en avant, il risque de se détériorer.
Il y a absolument un risque de détérioration qui est très fort parce que ce sont des collections qui ont été héritées, je dirais, du 19e siècle. Et on se rend compte maintenant, avec le changement climatique, avec les enjeux d'informatisation, qu'il faut véritablement sauter, franchir le siècle nouveau. Et à ce moment-là, nous risquons d'avoir des problèmes véritablement de sécurité, de dégradation par exemple des papiers, de dégradation des conditions de conservation. Il faut beaucoup d'énergie pour maintenir des températures constantes. Il faut une continuité dans l'action scientifique pour maintenir des collections qui soient véritablement vivantes. Et donc il y a beaucoup d'enjeux. Nous ne le voyons pas directement, mais lorsque vous regardez par exemple les formidables collection des musées royaux art et histoire au cinquantenaire, à la Porte de Halle ou au musée des instruments de musique, eh bien vous devez avoir suffisamment de personnel pour éviter les vols, suffisamment de personnel pour prévenir les catastrophes, même suffisamment de personnel ne fût-ce que pour faire vivre l'institution.
Merci beaucoup Alain.
Merci Pierre.
Chaque week-end, une personnalité se raconte dans les pages des Racines élémentaires. Ce samedi, ils sont deux frères, deux icônes de la télé belge, Josy Dubié et Jean-Claude Defossé, deux enfants terribles qui, à plus de 80 ans, se livrent comme rarement dans un entretien signé Nicolas Crous, Baudouin Loss et Pierre-Yves Tiampon. Nicolas qui nous dit pourquoi il faut lire cette interview. Alors Nicolas, pourquoi est-ce qu'il faut lire les Racines de Jean-Claude Defossé et Josy Dubié ?
Parce que c'est une petite leçon d'histoire médiatique, on pourrait dire. Josy Dubié a été grand reporter pendant quelques décennies. On l'a vu au Chili, c'est lui qui a fait la dernière interview de Salvador Allende en 72, quelques jours avant sa mort. Il a couvert la libération de Saïgon, Prague, 89, etc., etc. Son frère Jean-Claude, lui, c'est un autre type de journalisme. C'est un journaliste caustique qu'on a vu à travers les travaux inutiles, par exemple, les pieds dans le plat, question à la une, pour dénoncer davantage les dysfonctionnements du pays. Et ce sont deux frères qui ont marqué l'histoire de la télévision, pour planter le décor, on va dire.
Et là, un des fils rouges, c'est un des moments très forts de cette interview, c'est leur rapport tous les deux à leur père.
Absolument. Et puis, le vrai fil rouge, et je crois que c'est la partie la plus passionnante, c'est ça nous a beaucoup marqué, Baudouin Loss qui a fait l'interview avec moi et aussi le photographe Pierre-Yves Tiampon, ça nous a tous les trois marqué, le témoignage des deux frères et en particulier Josy Dubié sur ce début de vie. Alors c'est un début de vie digne d'un roman de Charles Dickens, hein. Ils naissent tous les deux au début de la guerre, en 40, janvier 40, Josy, février 41, donc très proche Jean-Claude, c'est la guerre, et en 44, d'ailleurs c'est le même réponse tous deux, donc là déjà au moins c'était facile de ce point de vue-là, c'est je ne serais pas devenu qui je suis ici, et bien tous les deux citent le drame qui est intervenu au Square Ambiorix, je pense que c'était au printemps 44, un bombardier américain qui s'effondre, qui chute sur le parc, et les deux enfants sont miraculés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans le papier, mais voilà. Et ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu une enfance dans une misère totale parce que le père qui revient du Congo, qui est un raciste total, dixit Josy, et Jean-Claude toujours confirme, mais avec un petit peu plus de nuance.
Tempère un petit peu.
Tempère toujours, c'est intéressant aussi. Mais donc, le père travaille dans le textile, entreprise verviétoise, ils sont des verviétois d'origine, et très vite, le secteur s'effondre. Il y a un grand problème pour retrouver du travail, et il tombe dans une misère noire. C'est le quart monde, c'est ce qu'ils disent, c'est le quart monde. Et alors, l'événement, effectivement, le plus marquant, c'est la relation des deux enfants, mais surtout de Josie, au père. François Dubier, en fait on peut se demander, était un Dubier et De Fossé. Dubier c'est le nom du père, De Fossé c'est le nom de la mère.
Et c'est Josie qui avait la relation la plus difficile, qui continue à porter le nom de son père.
Oui, mais ça c'est simplement parce que je vais faire un petit détour, mais simplement lorsqu'ils sont arrivés à l'RTB, l'un et l'autre, Josie était le premier, et c'était sous son nom, de Josie Dubier, et lorsque Jean-Claude est arrivé très peu de temps après, on lui a demandé si vous ne pourrez pas choisir un autre nom, et il a pris le nom de sa mère. C'était intéressant. Mais pour revenir à la violence du père, c'est qu'on a vécu un moment révoltant, très fort. On a Josie qui, en évoquant la relation terriblement douloureuse qu'il a vécue avec son père, se met à rentrer en colère, à crier, pratiquement crier, et à se mettre, il était pratiquement au bord des larmes, et il nous explique que, en fait, dès sa naissance, son père attendait un garçon, et il l'a eu, et l'infirmière a dit, voilà, vous avez, félicitations monsieur, vous avez un petit blond. Il s'est penché sur le berceau, il a vu que son enfant n'était pas blond mais roux, et il est rentré dans une grande colère en disant, ah non, pas un rouquin. Et il a appelé toute sa vie Josie le sale rouquin, dixit Josie Dubier. Son frère ne dément pas, il ne l'a jamais appelé par son prénom. Il l'a battu, il l'a rossé régulièrement, en racontant ça, Josie on sentait que la colère était intacte. Oui, c'est ça, une colère intacte. Et à un certain moment, le moment culminant, il a dit « Mais je le haïssais et je le hais encore !» Et on avait le sentiment que cet homme qui a 83 ans maintenant était encore l'enfant de 5 ou 10 ans. Et c'était extrêmement touchant, très fort aussi. Mais c'est dire la puissance de faire émerger les racines, de ce point de vue-là.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À lundi.